Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Cinébrunch, l'émission qui n'a pas peur de se partager le popcorn.
Spartager. Non mais je fais ma joke à l'avance,
Non non, c'est beau de se partager une critique de film. Bref, de se partager le popcorn, je suis à la barre de cette émission, moi, Louis Laramée, accompagné de mes deux co-animateurs, co-animatrices, Jim.
Hey, salut, t'as une voix de lendemain de veille.
J'ai pourtant pas de lendemain de veille, mais j'ai un lendemain de dentiste. Et Mélina.
Oui, bonjour, je suis là cette semaine.
Elle est de retour parmi nous après son bref passage dans le royaume des morts.
Exactement.
Bref, les nouvelles de la semaine. Jim, qu'est-ce que tu nous as concocté?
J'ai pensé à toi, Louis, parce que tu sais, il y a deux semaines, j'ai parlé du grand gala Québec Cinéma qui a été diffusé à Radio-Canada, à ici Radio-Canada Télé. Et tu sais que le grand gagnant du festival est...
Oui, Robert Aubin.
Robert Aubin avec le film Les Affamés, donc le film zombie québécois. Et 8 prix Iris ont été remportés. Et ce qui m'amène à dire que justement, Robin... En fait, on a dit Robert Aubin, mais c'est Robin Aubert. Hein? Robin Aubert. Il est facile à mêler son nom.
Ouais, ouais, quand même. Hein?
Donc, Robin Aubert, dans une entrevue à Radio-Canada, a partagé sa frustration de manière très crue, comme on le connaît, envers les distributeurs des films québécois, donc les films Cristal et les films Séville, qui donc appartient à Entertainment One. Et il a dit que les distributeurs ont refusé de faire des DVD Blu-ray des Affamés parce qu'il n'y avait pas eu assez d'entrées au cinéma pour son film. Alors, Robin Aubert dit que si les droits de son film ont été achetés par Netflix, c'est d'abord parce que les distributeurs québécois n'ont pas cru en lui. Et le même jour, croyez-le ou non, les deux distributeurs ont annoncé, donc Séville et Cristal, par communiqué que finalement... Les Affamés sera disponible sur disque Blu-ray le 21 juillet afin de souligner cette reconnaissance et pour répondre à la demande de plusieurs cinéphiles. Donc,
en fait, la bonne blague de Romain Aubert sur le film, c'était que pour commander un DVD, jusqu'à cette annonce commune des deux distributeurs, fallait contacter le distributeur espagnol avait une version DVD sortie, qui était la version française d'origine, que tu pouvais avoir avec sous-titres français, espagnol... ou anglais.
Hmm. Ouais,
c'est je pense quand même... portugais également. Mais ouais, fait que c'était très drôle.
Hein, comme quoi, ça vaut la peine de se plaindre.
Puis c'est un excellent film. Là. Moi, il va d'ailleurs être disponible sur Netflix, puis ça me remplit de joie.
Mmh. Oui, oui, oui.
Mélina!
Mais moi, en fait, j'ai eu envie de vous parler cette semaine d'un film qui a quand même marqué mon enfance.
Les Aristochats.
Oui, c'est vrai que les Aristochats l'ont marqué, mais là, on parle d'un peu plus tard. C'est le film Blonde illégale au Québec, donc Legally Blonde en version originale, qui est un film qui était sorti au début des années 2000, qui mettait en vedette Reese Witherspoon et Luke Wilson, qui est le frère d'Owen Wilson. J'ai appris ça en regardant mes trucs ce matin pour l'émission. Donc, ce film-là, il y a eu 3 films, en fait. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ce film-là. Louis, je sais que tu as une sœur qui a à peu près mon âge, fait que...
Le pire, c'est que ma sœur n'est pas plus cinéphile qu'il faut. Fait que non, les Legally Blonde, ça ne l'a jamais atteint. Okay. Moi, par contre, je me tenais au courant de quand ça sortait parce que je trouvais ça intéressant comme concept. Une femme ambitieuse comme ça qui faisait tout pour changer le monde.
Sacré Louis.
Et puis, elle est rentrée à Harvard pour étudier le droit. Puis, c'est très drôle comme film. Et ce que j'ai appris ce matin, c'est que, semble-t-il, que Reese Witherspoon est en pourparlers pour qu'on voit un troisième film qui s'ajouterait à cette série, donc plusieurs années après. Donc, si elle revient, semble-t-il que le film se ferait et elle semble très ouverte à faire ça. Donc, peut-être aurons-nous prochainement sur nos écrans la suite de Blonde illégale, une des suites parce qu'il y a déjà eu des suites, mais... Donc voilà, peut-être que
pour compléter une trilogie, j'ai cru comprendre aussi que ça allait peut-être parler de le personnage principal qui se rend à la présidence.
Carrément.
Oui, parce que House of Cards, VIP et d'autres ne l'ont pas déjà assez fait.
Oui, c'est ça. Quel nouveau concept.
Je sais. Moi, j'ai deux mauvaises nouvelles aujourd'hui qui ont rapport au même sujet. Solo, une histoire de Star Wars. Malheureusement, de très mauvais résultats au box-office. Les pires résultats au box-office jamais enregistrés pour
un Star Wars.
Le troisième pire score jamais enregistré chez Rotten Tomatoes pour un film de Star Wars. C'est au-dessus du...
Christmas Special? Quand même pas.
Non, le Christmas Special ne compte pas parce que c'est un c'est direct à la télévision. Non, mais au-dessus de la menace fantôme et de la guerre des clones, mais en dessous du troisième de la série d'origine.
Revanche des Sith.
La Revanche des Sith. Oui.
De la série d'origine? Oui, oui, c'est ça.
Ouais, ben non, les. Bref, il y a juste ces deux-là qui sont moins bons selon Rotten que ça. C'est quand même un correct 73, mais pour une série qui normalement remplit des salles, c'est un peu décevant.
Ouais. Je suis un peu surpris.
Ouais, mais en même temps, peut-être Star Wars Fatigue, peut-être que. C'est pas le film qui avait les plus de. D'enjeux sérieux, on sait déjà...
C'est vrai, mais ça pourrait pas plutôt être parce qu'il y a eu beaucoup de gros films box-office dans le même mois consécutif.
C'est possible, mais quand même, là, on se gâchera pas de punch en disant que Han Solo est encore en vie à la fin du film, tout comme Chewbacca. Là. On les a vus par la suite dans d'autres films, en plus d'avoir eu une production complètement tout croche à cause du renvoi du premier groupe de directeurs. Bref, ça... Puis là, Kelly Mary Tran, qui jouait la mécanicienne Rose dans le. Pas l'éveil de la force, l'autre, là.
Awakening.
Les derniers Jedi.
Les derniers Jedi, c'est ça.
Oui, c'est ça. Vient de quitter Instagram et en fait tous les médias sociaux par le fait même. Parce que elle a reçu une trollée d'insultes et de messages haineux, tant pour la race de son personnage, son sexe, que pour l'impact de son personnage dans le film. Plusieurs la considèrent comme une tâche sur devrait être
mais
le vrai univers Star Wars.
Là?
Parce que c'était la... Pourquoi là?
Oui, pourquoi là? Le film est sorti fait un moment quand même.
Parce que ça n'a jamais arrêté.
OK.
Parce que chaque fois qu'elle revenait sur les nouvelles, parce que chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau qui sortait, là, avec tout le battage médiatique autour de Solo, elle a reçu une nouvelle vague d'assaut à ce niveau-là. Plusieurs la considèrent comme étant la raison pourquoi est-ce que Star Wars est rendu pas bon.
Mais c'est une actrice, là, c'est pas elle qui a créé son personnage.
Oui, puis mais c'est aussi, tu sais, c'est le premier personnage féminin de couleur qui occupe un poste d'importance dans un film de Star Wars. C'est la première fois, bref, que ce n'est pas un homme blanc qui est à la tête de ces films-là. Je veux dire, si on regarde la trilogie originale, beaucoup de son temps, mais n'empêche que c'est Luke, Han, Obi-Wan, ce ne sont que des hommes qui sont là. Les femmes sont des personnages secondaires ou des intérêts romantiques. C'est la première fois qu'on a une femme forte, finalement. On a même deux avec Rey également qui est là. Donc, pour plusieurs, c'est d'entaché comme leur vision très misogyne de Star Wars. Fait que c'est triste, surtout que son Instagram était vraiment rempli de joie et de naïveté par rapport à ce que c'est que d'être une vedette. Donc, je pleure cette nouvelle.
Pleurons pour elle.
C'est très triste, en fait. Ouais. Je comprends pas pourquoi les gens s'acharnent comme ça sur d'autres personnes.
Mais même,
ça me dépasse.
Même le directeur du dernier Jedi, Ron Howard, a mangé une volée sur les médias sociaux également. Puis lui dit que 90% des gens sont malades, mais c'est 10% qui est vraiment désagréable. Mais ce 10%-là est particulièrement vocal et vicieux, fait qu'il comprend. Puis c'est juste. Puis effectivement, là, on regarde encore aujourd'hui le Twitter de Ron Howard, c'est pas cute.
Mm-hmm.
Fait que c'est encore pire quand c'est une femme.
Ben non, on n'a plus le droit de faire de cinéma comme on veut. Hein.
Mais pensez avant d'écrire, pensez si vous seriez capable de dire ces mêmes mots à la personne à qui vous les écrivez, si vous seriez capable de le dire en pleine
en fait,
face.
En fait, plus loin que ça, est-ce que votre mère serait d'accord avec ce que vous êtes en train d'écrire? Est-ce que vous le diriez à votre mère? Fait que bref, nouvelle bien triste ce matin dans le monde du cinéma. Mélina, t'as été voir un film de librairie.
Ben oui, je suis allée voir un film de librairie, Louis.
Oui, ben un film de livre. Un film... Est-ce que c'est tiré d'un livre?
C'est... En fait, le concept, c'est pas... Ben, on parle d'un livre, on parle de femmes qui lisent des livres, mais tout ça n'est qu'un prétexte, un cadre pour situer l'action. Donc, Louis parlait, bien entendu, du film Club de lecture, la version française de Book Club. Donc... L'histoire, c'est quatre femmes âgées environ dans la soixantaine qui sont amies depuis toujours et qui se retrouvent, comme à chaque semaine, au sein de leur club de lecture. Et une d'entre elles amène, cette semaine-là, le livre 50 nuances de gris, donc
50 Shades of Grey.
Exactement, donc le livre qui a fait qui trois livres en fait, une trilogie qu'on a vu en film aussi, le dernier est sorti quand même récemment. Donc, elle commence à lire ce livre-là et ça va influencer leur vie. C'est assez intéressant parce que j'avais beaucoup de... J'étais réticente à aller voir ce film-là parce que je n'ai pas vu les 50 Shades of Grey, 50 nuances de gris, je n'ai pas lu les livres non plus. Et je me demandais un peu où ça allait ce film-là, mais finalement, ça sert vraiment juste de prétexte pour mettre en scène cette histoire-là qui est vraiment une comédie romantique bonne. Comme il n'y en a pas eu dans ces derniers temps. Donc, avant de rentrer là-dedans, on va aller écouter la bande-annonce.
Bonjour les filles, j'aimerais vous présenter Christian Grey.
Oh non! Nous avons lancé ce club de lecture pour stimuler nos esprits.
J'ai entendu dire que ce livre est très stimulant.
Oh, wow!
Slim?
Arthur, ça alors?
Ça fait combien, 40 ans?
C'est impossible, ça voudrait dire que je n'avais que 6 ans.
Depuis quand tu manges de la glace?
Oh, ça m'a gelé le cerveau.
Attends, laisse ça à une professionnelle.
Oh, ma tête. C'est un premier encart, alors mets une tenue sexy.
Ou une tenue décontractée.
Ça se passe pas avec des adolescentes cette fois.
Non, exactement. Donc, comme j'ai dit.
J'ai lu la liste d'actrices, puis il n'y a personne là-dedans qui a 46 ans. Là. Ça, c'est pas.
Non, c'est ça la blague, en fait. Donc, oui, en plus, c'est une liste d'actrices quand même très, très, très connue. Donc, on a Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Marie Steenburgen, Andy Garcia et Craig D. Nelson. Donc, les quatre femmes, en fait, sont quatre actrices très connues, très drôles, qui ont fait beaucoup de films, donc qui ont une aisance. Ça a vraiment l'air de... Je sais pas si les quatre sont amies dans la vraie vie, mais ça a vraiment l'air d'une gang de filles qui ont décidé de faire ce film-là pour se faire du fun puis se retrouver ensemble devant la caméra. Je sais pas si c'est le cas, mais c'est vraiment ce que le film dégage. Dans le film, c'est quatre femmes qui ont très bien réussi chacune dans leur domaine. Donc, il y en a une qui est juge à la Cour suprême, il y en a une autre qui possède plusieurs hôtels, une autre qui est chef cuisinière. Bon, vous voyez le portrait. Donc, un peu comme ces quatre actrices-là qui sont très connues aussi, elles ont très bien réussi. Et elles vont aller explorer. Donc, il y en a une que son mari est décédé depuis environ un an. Il y en a une qui est encore accrochée à son ex-mari, même s'il est divorcé depuis 20 ans. Et il y en a une qui est une croqueuse d'hommes, comme on dit, qui veut pas s'engager. Et Christian Grey et 50 Shades of Grey vont venir influencer leur vie amoureuse. Elles vont chacun rencontrer des hommes. Celle qui est juge à la cour fédérale va s'inscrire sur un site de rencontre. Donc, ça donne des situations qui sont drôles. Et donc, c'est ça, j'ai vu plusieurs comédies romantiques depuis le début de Cinébrunch, certaines meilleures que d'autres. Celle-là, c'était une bonne comédie romantique, c'est-à-dire qu'on voit que c'est un film, pas juste qu'il y avait du budget, mais que les gens qui travaillaient derrière ce film-là avaient une expérience. Ce n'était pas une première fois à la réalisation ou une première fois au scénario. Donc, c'est très bien ficelé, les personnages sont attachants.
C'est un beau jambon, là.
C'est ça, un beau jambon. Les personnages sont attachants, les histoires sont divertissantes, les punchs sont bien faits, donc c'est un bon film pour ce genre-là. Et donc, pour le film Club de lecture, je vais donner un 8 sur 10. Pour le genre, c'est vraiment dans ce que j'ai vu de bien cette année. Et c'est très drôle, c'est un bon film à voir. Je pense pas qu'il y ait nécessairement de public cible avec ce film-là. Je pense que n'importe qui peut aller voir ce film-là, puis... y trouver un moment drôle. C'est quand même des acteurs qui sont très bons et qui rendent très bien leur performance.
L'as-tu vu, Louis?
Non, c'était pas sur ma liste de lecture cet été.
Bon.
Peut-être que je vais le rajouter ou pas. Je laisse le mystère planer sur la chose.
Mais bref, c'est très drôle. J'ai bien ri.
Je vais demander, Mélina, me le recommandes-tu?
Je pense que tu pourrais passer un bon moment à voir ce film-là. Okay. Il y a vraiment des scènes qui sont drôles. C'est de la bonne comédie. Des fois, il y a des comédies romantiques qui sont plus moins intéressantes.
Plus
c'est
moins.
Ouais.
Ouais.
Plus
ça, c'est...
ou moins. Plus ou moins.
Ouais.
Non, mais donc, c'est bien.
Un Mélina donne un 8 sur 10 à Club de lecture, voilà. Le Book Club. Excellent. Merci beaucoup, Mélina. We'll be right back. Moi, j'ai été voir un documentaire cette semaine. C'est comme pas dans l'esprit Cinébranche habituellement.
C'est ta première fois, je pense, à Cinébranche d'ailleurs.
C'est définitivement la première fois à Cinébranche. Puis j'étais vraiment. En fait, j'étais la personne qui était opposée à l'idée qu'on allait voir des documentaires à Cinébranche parce que je pense que, étant donné que c'est de la non-fiction, on perd un peu la possibilité de traiter du narratif de la chose. Ça reste purement à ce moment-là soit une appréciation de l'esthétique de la chose, soit une appréciation du sujet de la chose, soit faut se claquer la recherche pour s'assurer de la véracité des faits.
Mais tu l'as fait quand même.
Ben, j'ai réalisé que j'avais tort. J'admets que ça m'est arrivé, j'ai fait une erreur. Parce que je pense qu'un documentaire comme celui que j'ai vu, qui s'appelle RBG pour Ruth Bader Ginsburg, qui est juge de la Cour suprême, qui est la plus vieille juge de la Cour suprême à 84 ans, qui est la deuxième femme qui a jamais été nommée au plus grand tribunal, qui est juive, qui était avocate pour le droit des femmes, qui a replacé le droit des femmes durant les années 70-80. En tout cas, OK, on va prendre ça dans l'ordre. On va aller écouter la bande-annonce, je vais vous faire le descriptif du film, puis après ça, on parle.
D'accord.
I ask no favor for my sex. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks.
We welcome today Justice Ruth Bader Ginsburg.
She's become such an icon.
Would you mind signing this copy?
I am 84 years old, and everyone wants to take a picture with me.
Notorious RBG.
Yeah.
When you come right down to it, the closest thing to a superhero I know.
Ruth Bader Ginsburg changed the way the world is for American women.
I became a lawyer when women were not wanted by the legal profession.
Thousands of state and federal laws discriminated on the basis of gender.
Rapidement, la description. Âgée de 84 ans, la juge de la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, a mis sur pied un héritage juridique à couper le souffle, tout en devenant de manière inattendue une icône de la culture populaire. Mais sans aucune biographie définitive, l'unique voyage personnel et l'élévation de cette grande dame à la plus haute cour de la nation a été en grande partie inconnue, même pour ses plus grands fanatiques, jusqu'à maintenant. RBG est un documentaire révélateur explorant la vie et la carrière exceptionnelle de Ginsburg par Betsy West et Julie Cohen. Moi, je connaissais un peu qui était Ruth Bader Ginsburg parce que je suis intéressé par la Cour suprême américaine. Puis effectivement, depuis plusieurs années, elle est là. Ça fait depuis les années dénommées en 95 par Bill Clinton. C'est une femme qui est reconnue pour être très directe, très tranchante dans ses opinions, être très par étant pour se rendre à certaines réussites. Mais c'est en regardant ce documentaire-là qui joue énormément sur le fait que non seulement c'est une femme extraordinaire, c'est-à-dire que depuis les années 70, elle est avocate. Ça a été la première, une des premières femmes qui a été dans la Harvard Law Review. Quand elle est sortie de l'université, aucune grande boîte d'avocats voulait la prendre parce que personne ne voulait engager des femmes comme avocats, comme avocate. Bref, c'est une femme qui a dû se battre toute sa vie pour réussir à atteindre quoi que ce soit. C'était un documentaire. Puis ça joue en même temps sur le fait qu'aujourd'hui, de par sa position de juge sur la Cour suprême qui se bat énormément pour le droit des femmes, elle a atteint une certaine notoriété. On la connaît comme Notorious RBG, qui est un jeu de mots sur ses initiales et sur le célèbre rappeur Notorious B.I.G. Mais là, il faut que j'explique. Là,
Oui, non, je sais bien. C'est drôle pareil.
C'est excellent comme jeu de mots.
Oui, puis elle explique que, tu sais, quand on lui demande dans le documentaire, est-ce que ça vous dérange qu'on utilise ce nom-là, puis elle fait non, pas du tout. Même que je trouve qu'on a plusieurs points en commun. D'ailleurs, on est tous les deux des Brooklynites, parce que c'est deux gens de Brooklyn. On est tous les deux des gens qui ont dû partir de rien, puis monter au top de ce qu'on pouvait faire à ce moment-là. Puis je pense que les gens ont besoin de se rattacher à quelque chose. Il y a de la marchandise qui existe de cette femme-là. Il y a des posters. Lorsqu'elle a écrit un livre, il y a eu des foules incroyables. Pour la tournée de livres. Bref, c'est une femme à la vie extraordinaire qui est excessivement bien rendue par ce film. C'est-à-dire que c'est un documentaire de 1h40 qui réussit à être intéressant, touchant, qui nous fait croire au narratif de la chose, qui nous donne envie d'en savoir encore plus, tout en donnant assez d'informations pour se sentir qu'on a été rassasié. Au niveau musical, vous l'avez entendu dans la bande-annonce, c'est super varié, c'est vraiment intéressant. Bref, moi, je donne un solide 9 sur 10 à RBG. Je recommande à tout le monde d'aller voir ce film-là parce que je pense que c'est un documentaire nécessaire pour comprendre le droit des femmes en Amérique du Nord. Puis, ses victoires sont principalement américaines, mais elle a inspiré une génération de féministes dans les années 80. Et pour ça, je pense qu'on doit la saluer.
Et donc, c'est pas ton dernier documentaire à Cinébrunch?
Probablement pas. J'ai peut-être même commencé à insister pour qu'on en voit plus. Là,
il y en a d'autres en ce moment à la maison du cinéma.
Oui, mais c'est pas aussi... je vais pas commencer à critiquer les cinéastes. Je suis juste vraiment pas attiré par le concept.
Bon.
Fait que, alors que les biographies ont déjà toujours été un peu plus à ma vitesse. Ouais, ouais, ouais. C'est plus bon. Le genre de choses que j'aime. Fait que, non, je recommande à tout le monde, et particulièrement ceux qui, politiquement, sont un peu allumés, parce qu'il y a beaucoup d'événements importants qui sont comme mentionnés dans le film puis qui sont mis en contexte de la présence de Madame Ginsburg au travers ces histoires-là. Également à noter, c'est une femme juive qui a réussi à faire tout ça à une époque où l'antisémitisme existait encore. Fait que, non, j'admire énormément cette femme-là. 84 ans, elle siège encore à la Cour suprême. Il y a une scène vraiment extraordinaire où on la voit s'entraîner. Je me suis senti flasque à ce moment-là de voir cette femme toute petite qui fait à peine 5 pieds de 84 ans. En sweatpants, en sweater.
Plus en shape que toi.
Qui tous les trois fois par jour a un entraîneur personnel et elle s'entraîne pendant 1 à 2 heures. Je trouve ça hallucinant, j'étais impressionné.
Eh bien,
merci Louis, ça me donne envie de voir ça en tout cas.
Ouais, je pense que t'aimerais particulièrement ça.
Mm-hmm.
Jim moins parce qu'il est plate, il aime pas vraiment le plaisir.
Ben, c'est sûr. Mais... je suis connu pour ça.
C'est connu pour ça. Fait que merci à moi.
C'est le moment des sorties cinéma.
C'est le moment de la semaine où je vous parle de ce qui s'en vient dans la prochaine semaine. Je suis un oracle, je vois le futur. Quel beau timing, guys.
Ça m'inquiète.
On a Beast, un drame de la Grande-Bretagne réalisé par Michael Pierce, mettant en vedette Jesse Buckley, Jenny Flynn et Geraldine James. Sur l'île de Jersey, une jeune femme tombe amoureuse d'un homme mystérieux. Cette rencontre la pousse à fuir sa famille tyrannique. Alors que l'homme est soupçonné de plusieurs meurtres, elle le défend aveuglément. Un beau soleil intérieur, la version originale de Let the Sunshine In, comédie dramatique française, coproduction française et belge, réalisée par Claire Denis, mettant en vedette Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Catherine, Josiane Balasco et Nicolas Duvauchel. Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin, un vrai amour. Tu vois, ça c'est parce que Tinder s'est pas rendu en France.
Aha.
Les Incroyables 2, version originale de Incredibles 2.
Oui.
Animation américaine, réalisée par Brad Bird, mettant en vedette Craig T. Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson, John Ratzenberger, Huck Milner et Sarah Vowell. Ellen est sous les feux de la rampe, laissant Bob à la maison avec Violette, Dash et bébé Jack-Jack. C'est une transition difficile pour tout le monde, surtout que la famille est encore inconsciente des super-pouvoirs grandissants de Jack-Jack. Je pense que je vais dire Jack-Jack jusqu'à la fin des temps, j'aime tellement ce nom de bébé-là. Lorsqu'un nouveau méchant s'apprête à mettre à exécution un plan brillant et dangereux, la famille et Frozone doivent trouver une façon de travailler ensemble à nouveau, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, on va se le dire, là, c'est le premier film de super-héros de Pixar qui revient à l'écran. Ça va être vraiment cool, j'ai hâte d'aller le voir, même si on s'y attendrait pas. Au témoin d'un doute, drame, coproduction franco-belge.
Ça va être bon.
Réalisé par Karine Tardieu, mettant en vedette François Damien, Cécile de France, Guy Marchand, André Wilms. Erwan, un démineur breton, apprend par hasard que son père n'est pas réellement son père. Surpris, il entreprend de retracer son véritable géniteur. Dans le même temps, il fait la connaissance d'Anna, une femme séduisante qu'il souhaite conquérir, mais qui pourrait bien être sa demi-sœur. Par ailleurs, la fille d'Erwan, enceinte, ignore l'identité du père de l'enfant à naître. Je pense que le thème du film, c'est la famille!
Ah non, ça a l'air vraiment bon, ce film-là.
Je suis pas convaincu de cette phrase-là, mais on s'aime quand même, et Jim et moi. Quand l'amour se creuse un trou, drame québécois réalisé par Arabal, mettant en vedette, nul autre que France Castel, Patrice Robitaille, Julie Le Breton, Rose-Marie Perrault, Thomas Baudouin et Robert Naylor. Montréal, juin 1995, jeune délinquant Miron fait la fête au lieu d'aller à l'école. Ses parents, tous deux professeurs d'université, forcent alors leur fils à les suivre à la campagne, dans l'espoir que l'éloignement des distractions de la ville lui permette de se concentrer et de réussir ses études secondaires. Après une semaine au chalet, Miron rencontre Florence, la voisine de 73 ans. C'est le coup de foudre entre les deux. Fortement en désaccord avec cette idylle amoureuse, les parents de Miron l'interdisent de revoir sa bien-aimée de 56 ans, son aînée.
Faut faire une critique commune de ça.
Mais déterminé à vivre cette histoire d'amour jusqu'au bout, Miron prendra tous les moyens pour arriver à revoir Florence. Là, juste pour qu'on soit clair, c'est un film d'amour mettant en vedette France Castel et un ado de 16 ans. Je dois voir ce film-là. Non,
ça a l'air bien.
Honnêtement, le Québec ne peut pas produire ça.
on verra.
Superfly, réalisé par... je sais pas. Jennifer Morrison, Jason Mitchell, André Londo, Lex Scott Davis. Le dealer Superfly est de retour 46 ans après le film culte signé Gordon Parks Jr. Honnêtement, je connais pas Superfly. Je sais pas de quoi il est question. Je suis comme curieux. C'est un film d'action américain. Tag, comédie américaine. Ben oui, toi. Mettons en vedette Annabelle Wallace, Jeremy Renner, Ursula Fisher, Leslie Bibb, John Hamm, Rashida Jones. Ah oui, ça, tous les ans, à la même époque, c'est reparti pour un mois. Cinq potes à l'esprit de compétition très aiguisé se lancent dans une partie de chat perché.
De tag,
mon Dieu. Où tous les coups sont permis. Une tradition qui dure depuis l'école primaire, où nos cinq lascars mettent en jeu leur boulot, leurs relations et leur propre vie. Tout ça pour le plaisir de plaquer leur concurrent au sol avec le cri de guerre. Chat, c'est toi qui y es. Cette année, la partie se déroule au moment où le seul joueur qui n'a encore jamais perdu se marie. Autant dire qu'il devrait être une proie facile. Sauf qu'il se doute bien des intentions de ses petits camarades et qu'il a tout prévu.
Petits camarades.
Ouais, la traduction française ici.
Ouais, on est loin de la réalité, là.
Calvin,
j'ai peur de voir le film en version française.
Moi aussi.
Ouais, ça se passera peut-être pas. Hein.
Ça se passera juste pas.
La première bande-annonce de ce film-là, j'ai trouvé que ça avait l'air vraiment pas bon. Et la deuxième bande-annonce qui est sortie, là, tu vois, je me suis dit, oh, ça a l'air intéressant. En plus, ça semble que c'est basé sur une histoire vraie, donc ça a l'air assez comique.
Le concept est bon quand même, en tout cas. Ça a été vu.
Ben, puis les acteurs sont quand même cool.
Oui,
là. Oui. Pas, tu sais, j'ai bien hâte de. C'est peut-être là-dessus qu'on va faire une critique commune,
tout
finalement.
Est possible, tout est possible.
Tout est possible. Chat, tu y es. Fait que...
On s'en suivra ensuite une partie de tag général dans les studios de CFLX, qui sait.
Voilà.
En cette deuxième demi-heure, on se parle de
la chute
des Grecs,
de Sparte.
Là, les vieux sont morts puis sont tous tombés. La chute de Sparte.
Voilà.
On fait une critique commune de ce film, ma foi, qui va me forcer à parler beaucoup. Mais avant ça, Jim a été voir un film à propos des problèmes de genoux.
Je suis pas convaincu, mais directement, peut-être.
Non, non, mais quand j'ai mal aux genoux, moi, faut que je me mette debout. Fait que tout le monde debout.
Bon, ben oui, tout le monde debout, exactement. Comédie sentimentale franco-belge, écrite et réalisée par Franck Dubosc, qui interprète aussi le premier rôle. À ma connaissance, je suis pas mal convaincu que c'est son premier film comme réalisateur. Il joue en compagnie d'Alexandra Lamy et Gérard Darmon. Louis, écoutons la bande-annonce.
Qu'est-ce que je fasse? Et je lui dis, c'est bidon, je suis pas handicapé, c'est pour draguer ta sœur.
Il y a quelqu'un pour vous. C'est une handicapée physique.
Bonjour.
Oh, bonjour.
Je peux vous parler?
Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Venez.
Non, vous venez.
Non, venez.
Non, vous.
Non, vous.
Non, vous, venez.
Non, vous.
Non, je peux pas bouger.
Oh. Et comment la grande sœur?
Sérieux, moi, elle est comment?
Elle est intéressante, elle est belle, il y a quelque chose...
Oh, Jocelyn.
Oh, Florence.
Vous êtes assis sur ma chaise?
Oui.
Oui. Donc, le film s'appelle Tout le monde debout. Vous aurez reconnu la voix de Franck Dubosc, évidemment.
Jim, rappelle-moi, dans quoi est-ce qu'on a connu Franck Dubosc?
Ah, entre autres, Camping, plusieurs comédies françaises des années 2000 seulement, par contre. Donc, oui, c'est ça. Il a commencé assez tard sa carrière au cinéma. Franck Dubosc interprète Jocelyn, directeur d'une compagnie de chaussures de sport. Encore une fois, un homme à femme, un peu pervers, charmeur et menteur compulsif. Après la mort de sa mère, il visite son appartement et fait la rencontre d'une jeune voisine assez canon. Assis dans le fauteuil roulant de sa mère, il est pris pour un handicapé et il décide de jouer le jeu jusqu'à ce qu'elle lui présente sa sœur réellement handicapée. Donc, on est vraiment dans un film très dubosquien, si vous me permettez l'expression, où on reconnaît vraiment le personnage typique réutilisé mille fois. C'est un film qui traite beaucoup du mensonge, de la vérité, ça parle de courage, évidemment, c'est sur de la vie pour une personne qui souffre d'un handicap physique. On se le cachera pas, donc c'est ça, c'est très Dubosc, typique avec tous les clichés qui vont avec, c'est prévisible, on reconnaît un Dubosc coincé dans son mensonge, comme on l'a connu dans Camping, mais on sent bien aussi une lourdeur dans ce film-là, une tension qui est assez forte et persistante. C'est vraiment le poids du mensonge qui vous gruge de l'intérieur et on le ressent aussi comme spectateur. C'est assez surprenant pour un film avec Franck Dubosc parce que on a l'habitude des choses un peu plus légères. On rit quand même souvent parce que ça demeure un film de comédie. Et bon, si vous aimez le personnage typique de Dubosc, là, l'espèce de macho un peu, bon, ben vous allez y prendre votre plaisir. Malgré les clichés, on réussit à ne pas entrer dans certains sentiers battus par d'autres films où on traite de handicap, et ça, c'est plutôt bien. Une mention spéciale à la scène de la piscine, qui est simplement extraordinaire visuellement. Sinon, globalement, une photographie inhabituellement intéressante pour ce genre de film, sans non plus, évidemment, révolutionner le cinéma. Normalement, je regarde les films avec Franck Dubosc dans une volonté de divertissement seulement, mais là, cette fois, j'ai vraiment été surpris agréablement. Beaucoup plus dans le film que ce à quoi je m'attendais. J'ai trouvé ça vraiment très bon. Je donne un 8 sur 10. Je l'ai vu en salle, j'ai pas vu en disque. Fait que, ouais, ouais, 8 okay. sur 10. Oui.
8 sur 10, ça, ouais. OK, excellent. Ben, merci beaucoup, Jim.
Il n'y a pas de quoi.
Hey! Cette semaine, on a été voir La Chute de Sparte.
Oui.
En gang. Ben, pas en gang, mais les trois. Vous deux, vous êtes probablement allés ensemble, là, comme oui. d'habitude. J'ai vraiment hâte d'en parler de ce film-là parce que c'est quand même un gros projet. C'est tiré d'un livre de Équipe Arbiz, réalisé par Tristan Dubois, qui est un jeune réalisateur et scénariste intéressant. Il y a eu énormément de battages médiatiques autour de ça. Ce serait le nouveau film d'adolescent par excellence. Qu'est-ce que c'est, rapidement, la description? Steve Simard entame sa dernière année de secondaire à l'école Gaston Miron. Bibliophile et solitaire, il s'enferme souvent dans ses livres afin de s'évader d'une réalité qu'il trouve terne et ennuyante. Mais, un jour, dans les cours d'éducation physique, il réussit un exploit qui lui permet d'attirer l'attention de la plus belle fille de l'école. Malheureusement, cette prouesse dérange Giroux, la brute de l'équipe de football de sa polyvalente, les Spartiates. Steve devra donc jongler entre ce nouvel ennemi dangereux et cette fille formidable, qui lui adresse enfin la parole. Des hauts et des bas qui transformeront à jamais la vie de cet adolescent de Saint-Lambert. On va aller écouter la bande-annonce, puis après ça, on s'en parle.
D'accord. J'ai 16 ans et je m'appelle Steve Simard. J'habite à Saint-Lambert, puis ça me fait profondément chier. En secondaire 1, j'aurais aimé ça jouer au football, mais j'étais pas assez athlétique. J'aurais aimé ça avoir des amis, mais j'étais pas assez populaire. J'aurais aimé ça avoir une blonde, mais j'étais pas assez beau. Au lieu de pratiquer mes plaqués avec mes amis pendant que ma blonde m'applaudissait dans les estrades, je lisais tout seul dans ma chambre. On n'est jamais seul avec un livre. Il m'avait fallu un exploit guerrier pour me révéler à ses yeux. Et depuis cet après-midi, j'étais buriné dans le marbre de son cléos. Maintenant qu'elle m'avait embrassé, je pouvais enfin lui faire la grande demande.
Comment ça va?
Voilà!
Hey! Bon, est-ce que je peux commencer cette fois-ci?
Vas-y,
je pense que c'est mon tour là, de commencer un travail de destruction. Bon, je vais admettre des choses en commençant. Okay? J'ai comme trois confessions à faire pour partir. Un, j'ai pas lu le livre. Deux, j'ai eu une adolescence difficile, entourée de livres, avec peu d'amis et pas de copines, mm-hmm. et surtout pas de sport. Encore aujourd'hui, j'ai plus de chances de me faire prendre en dernier au dodgeball qu'en premier. 3. J'aime pas Biz dans la vie de tous les jours, que ce soit à Plus on est de fou, plus on lit, que ce soit dans sa musique, que ce soit dans ce qui. Je n'ai jamais aimé Biz. Fait que moi, j'arrivais là avec
ça
beaucoup d'appréhension. En me disant, ben, il y a du bon ça qui se fait au cinéma québécois. Je veux dire, moi, j'ai encore en tête un autre projet qui était beaucoup inspiré du monde de l'époque, Chien de garde, un autre film d'adolescent, Charlotte a du fun, où j'ai eu énormément de plaisir. Encore aujourd'hui, c'est une des meilleures notes que j'ai données au cinéma québécois. Une autre critique commune, un autre film d'ado. Sophie Lorrain a beaucoup plus de talent que Tristan Dubois, cibole. Parce que je suis rentré là et ce qu'on a entendu dans la bande-annonce, la première phrase, c'est la première phrase du film également, parce que là, ça commence, puis...
Explique sa vie, là.
Hey, man, comment expliquer? C'était une espèce d'orgie de pitié, d'apitoiement sur soi-même, de glorification de soi au travers des grands mots qui ne veulent rien dire dans la bouche d'un adolescent qui n'a pas vécu. Il n'y a personne qui lit Miron quand t'as 16 ans. Il n'y a personne qui se s'apitoie sur son sort en citant des poètes québécois. Il y a le Christy de poster sur sa porte avec « Il faut rêver ses rêves d'enfant ». Ce sont les seuls qu'on n'aura jamais. Je pense que j'ai failli sortir du cinéma à ce moment-là. Malheureusement, c'était dans les 15 premières minutes.
Ça aurait été bien mal vu.
Ça a été un peu problématique. Les quelques bonnes choses que j'ai vues dans le film, c'était très beau, c'était bien réalisé. Il y avait une réalité de ce que c'était que le monde d'adolescent qui était rarement vu dans un film. Quoique très américanisé, là, avec les gens qui sont là pour le football, qui sont là pour les cheerleaders qui sont là avant le match. Donc, en ce sens, c'est comme un film qui sait pas ce qu'il veut. Ça se veut comme une espèce d'American Pie pour les gens qui ont du vocabulaire. Ça se veut une espèce de film d'ado pour les gens qui ont déjà lu Les Poètes Maudits. Ça se veut comme une espèce de... Bref, il y a 8 personnes au Québec qui vont se reconnaître là-dedans. Ils ont entre l'âge de 35 et 40 ans, puis ils ont jamais sorti de leur adolescence manquée. Je pense que les thèmes de ce film-là, qui tournent énormément autour de la réalisation de soi, de qui on est par rapport aux autres, sont appropriés pour un film d'adolescent, mais traités de manière tellement grandiloquente et over the top que c'est juste pas crédible.
Eh bien.
Je vais attendre qu'on ait fini pour donner ma note, mais okay, attendez-vous pas à ce que ça passe.
Alors, j'imagine que Mélina, tu veux...
Ben non, je te laisse la parole, en fait.
Bon, écoutez, il y a beaucoup de points en commun entre Louis et moi sur la critique et sur le vécu. Moi aussi, j'ai pas lu le livre. Moi aussi, j'ai eu de l'intimidation quand j'étais à l'école. J'étais plus... Je dirais pas que j'étais dans les livres, je vais être probablement dans autre chose, mais j'étais pas dans le sport, clairement pas. Donc c'est ça, c'est pas un film qui est parfait. Je dirais que la première partie du film est réellement problématique. Moi aussi j'avais envie de sacrer mon camp. Gros point fort du film par contre, dans la deuxième partie vers la fin du film, je veux évidemment pas divulguer quoi que ce soit, mais on aborde habilement des thèmes assez forts et très difficiles avec une main de maître, j'ai envie de dire. On reconnaît vraiment le vécu, la profondeur de Biz dans l'histoire. On sait évidemment qu'il parle de quelque chose qu'il a vécu, donc quelque chose de vrai. Par contre, alors là, c'est là que ça se corse. Alors, j'ai pas lu le livre, mais je pense que le film est beaucoup trop calqué sur le livre à mon goût. Il y a un clash d'époque évident entre le secondaire au temps de la jeunesse de l'auteur et le temps où se passe le film. Donc, la narration du personnage principal est encore beaucoup trop soutenue et littéraire. J'ai pas vu le livre, mais de toute façon, le Québécois écrit est littéraire et ça marche, ça, c'est pas un problème. Mais dans un film, ça fait vraiment perdre le réalisme du récit parce que tout le monde parle en Québécois. On l'entend dire dès le début de la bande-annonce. Ça me fait profondément chier. Comment on peut ajouter des mots pompeux et tout ça? Les narrations de Steve... le montre un peu comme quelqu'un de trop sage, de profond, mais pour son âge, ça a comme un clash total, comme s'il avait vécu le vécu d'un adulte, un peu comme Biz, par exemple, qui écrit un roman sur son adolescence, alors que les actions, le montre jeune et dans l'action, avec ses relations avec ses parents, comme il doit être, dans le fond, un ado dépassé par les événements, toujours avec des difficultés d'adaptation. Donc, j'aurais aimé mieux que le film soit fait comme si l'histoire se passait dans les années 90. Là, je sais pas c'est quel âge a Biz, mais j'imagine que son adolescence devait être dans les années 90. Donc, ça aurait été beaucoup plus crédible de laisser ça là-dedans. Ou alors, de vraiment adapter le récit à la réalité d'aujourd'hui. Donc, tu laisses les superbes incrustations de Facebook et des affaires qui étaient quand même bien réussies,
oui,
on va se dire.
Beau, ça.
C'était très beau, mais ça marche pas parce que je trouve que les références politiques, les références littéraires n'ont pas de sens actuellement. J'imagine que dans les années 90, ça avait un peu plus de sens. On parle du poster. C'est déjà plus proche un peu de cette réalité-là. On parle du référendum, de ces affaires-là. On est loin de ça aujourd'hui. Ça m'étonnerait qu'un petit cul de Saint-Lambert, effectivement, lise du Miron, puis qui soit un fervent défenseur de la langue française, puis tout ça. Ça se peut, là. Il y en a certainement, mais c'est difficile de s'identifier à ça parce que c'est plus la réalité d'aujourd'hui.
Mais plus loin que ça. Puis là, excuse, tu m'as rappelé, comme, on va pas le divulgâcher, mais on va appeler ça le twist.
Ouais,
c'est-à-dire le moment du film où est-ce que le thème au complet du film change sans raison apparente. Ben, suite à un événement tragique qui, dans le fond, marque la transition entre le deuxième et le troisième acte, mais qui rend complètement caduque tout ce qui s'est passé dans le début du film. C'est vrai, c'est j'avais oublié que ça m'avait fâché à ce point-là. Je pense que j'en étais tellement hargneux que j'en avais oublié. Mais avant de continuer à me pomper, je vais donner le micro à Mélina.
Je suis assez d'accord, en fait, avec tout ce que vous avez dit. Donc, Louis, pour ceux qui ne voient pas, c'est-à-dire tous ceux qui sont chez eux, me tendaient un bâton de parole. Donc,
voilà.
Merci, Louis.
C'est le micro de la critique. Vas-y.
Voilà, le micro de la critique. Non, effectivement, ce film me donnait l'impression que, comme dans quelques trucs qu'on a vus récemment, qu'il y avait eu un changement de réalisateur en plein milieu de la réalisation. Il y a des choses qui semblaient, je sais pas, sorties un peu nulle part. Il y avait des trucs quand même intéressants. Moi, j'ai bien aimé le twist qu'on parle ici. Ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est qu'à certaines reprises, on nous montrait des choses de façon différente de ce qu'on est habitué de voir. Comme par exemple, il y a une scène où on sait que Steve est en train d'installer un crochet dans sa porte, mais on ne voit jamais le dit crochet, c'est-à-dire on voit juste de l'autre côté de la porte, les vis. Oui, c'est ça exactement, on voit les vis qui perdent sa porte. Des genres de scènes comme ça qu'on est moins habitué, je trouve, de voir dans d'autres types de cinéma, mais qui là semblent tout d'un coup être devenus un peu à la mode, on pourrait dire, c'est-à-dire de pas montrer des trucs. Là, c'est dans un cas où on place un élément qui n'est même pas tant une action, c'est-à-dire, est-ce que c'est tant le fait de voir, c'est qu'on voit jamais la dite barrure, mais on met beaucoup de temps à montrer qu'il l'installe sans jamais la voir pour que finalement, on mette de l'emphase sur des trucs vraiment beaucoup, alors que finalement, ben on...
Ça te paye pas.
Ça paye pas vraiment.
Mais je sais pas si... Je me suis posé la question si c'était pas une métaphore, parce que, tu vois, il arrive dans le monde réel, il met des vis pour se protéger parce que clairement il est en situation de survie. Puis, mais là, il y a comme son poster qui est l'autre côté de la porte. Puis là, les vis menacent de briser son poster. En fait, ça le brise. Puis là, peut-être que le poster représente ce qu'il faisait de lui dans son monde reclus. Peut-être.
Plus loin que ça. Moi, je pense que c'était clairement une métaphore parce que son poster parle des rêves d'enfants. Ce sont les seuls que l'on
peut avoir. Ah ben, tu vois, en plus, j'ai oublié ce qui est écrit dessus. Mais
je pense que c'est comme de montrer la réalité d'adulte de lui qui se sent menacé par Giroux, qui se protège, qui est le premier, tu sais, les premiers trous dans son monde d'enfant. Donc, c'est le premier contact avec le monde réel. Donc, tu sais, moi, j'avais même... ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était un crochet qui venait d'installer. Mais moi, c'était ça. C'était vraiment là comme... C'était le moment où est-ce qu'il perçait au travers la bulle. On le remarque aussi peu de temps après cette scène-là. C'est le premier moment où il se change. Parce que jusqu'à présent, on le voit toujours avec son Christy de hoodie de l'école Gaston-Miron, qui est toujours le même grillette. Puis là, on le voit arriver avec comme un chandail beaucoup plus ajusté, beaucoup plus... sharp, là. Je veux dire, il est beau dans ce chandail-là comparativement à son hoodie pas de forme. Puis c'est la première fois qu'on le voit prendre le contrôle un peu de sa vie. C'est le premier moment où on le voit justement arriver. Fait en termes de structure narrative, puis en termes de métaphore, au contraire, je trouvais ça super intéressant comme moment. Peut-être est-ce qu'on passe un peu trop de temps. Il y a comme eu une tentative de faire quelque chose d'humoristique après
ça. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est pour détendre l'atmosphère ou je sais pas quoi.
Ça, ou pour montrer qu'il n'est pas capable encore de gérer ses propres moments d'adulte. Moi, c'est de même, j'ai compris la métaphore. C'est le premier moment où il perd sa bulle d'adolescence ou d'enfance. Il commence à essayer de vivre une vie d'adulte. Il n'a pas encore les outils pour le faire. Par conséquent, il installe un crochet, les vis se dépassent. Il n'a pas catché que ça lui prend une scie à métal pour enlever le bout de vis.
Mais. C'est ça. Donc, juste pour terminer ce que je voulais dire, ces moments-là dans le film, je les ai trouvés intéressants, sauf que, en même temps, je sais pas si c'était tout justifié de mettre cela. Sinon, l'autre chose que j'aimerais qu'on parle, c'est les acteurs de soutien. La mère, je n'ai pas aimé le casting de la mère.
C'est cliché, là.
Oui, puis on sentait, comme tu disais, tu parlais que c'était à un moment donné beaucoup trop littéraire. Quand elle l'appelle sans cesse Monsieur Baboon, je sais pas, je n'y croyais pas. Je voyais le scénario clairement derrière son interprétation et ça me dérangeait beaucoup. Il y a certains autres personnages secondaires que j'ai trouvé qui était pas fort, mais il y en a d'autres, par exemple, qui étaient excellent. Je pense à
le méchant, là. La brute.
Ouais, la brute.
Giroux.
Bon, lui, cet acteur-là, c'est un acteur que j'avais déjà vu, que j'ai déjà vu dans Le Chalet, l'émission à Vrai TV, que je ne trouvais pas nécessairement fameux dans Le Chalet. Je trouvais que les scènes d'émotion, ces scènes d'émotion n'étaient pas très crédibles, alors que là, dans La Chute de Sparte, je l'ai trouvé vraiment excellent. C'était un des acteurs qu'ils ont choisi qui avait déjà une expérience derrière la caméra et ça paraissait. Et il nous livrait des scènes d'émotion quand il est fâché, justement. Mm-hmm. Je trouvais que c'était excellent.
Il pouvait faire peur, effectivement.
Oui, vraiment. Ouais. Il était crédible. Donc, il y a certains acteurs de soutien ou d'autres acteurs qui étaient bons, mais il y en a d'autres que, honnêtement, j'étais pas capable. Si on pense un peu à Jean-Marc Généreux qui joue le professeur de chimie, qui a probablement été casté là juste parce qu'il est capable de danser puis faire la scène au party d'Halloween, que je ne comprends pas non plus d'où ça sort, cette scène-là. Il y a des choses comme ça que je trouvais un peu... un espèce de mélange d'un espèce de pot pourri, de mélange de tout ce qui reste, puis de tout ça, que j'étais pas sûre à quel point c'était intéressant, mais ça semble être un concept qui revient dans certains films d'adolescents. Dans Charlotte a du fun aussi, on voyait certains trucs du genre, donc je pense qu'en même temps, c'est une exploration du style, donc... Il y a des points forts dans ce film-là, mais il y a aussi des points beaucoup plus faibles, je dirais.
Si je peux me permettre, moi, j'ai eu une opinion de Scrap à propos de ce film-là, fait que je me suis dit, bon, allez lire les interviews puis pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Puis ça se voulait une espèce de vision de qu'est-ce que c'est que l'adolescence vue par les adolescents, d'essayer de comprendre un peu ce monde qu'ils ne comprennent pas encore parce que, justement, ils n'ont pas l'âge ou ils n'ont pas la maturité de voir tout ce qui se passe autour d'eux. Bref, je suis toujours pas convaincu. J'ai beaucoup pensé, en fait, en sortant de ce film-là, à Blocker, que l'on a vu plus tôt cette année, Mélina et moi. Jim aussi, t'avais vu?
Non, Jim
l'avait pas vu, celui-là.
Pas mon genre.
Non, et pourtant, c'est le film que j'ai trouvé qui se rapprochait le plus qu'on a vu depuis le début de l'émission, parce que c'était une comédie adolescente qui parlait de sujets importants, on parlait de sexualité, on parlait des premières expériences, on parlait du rôle parental, puis qui a réussi à être drôle, intéressant... à pas se prendre trop au sérieux puis à montrer du point de vue des adolescents qu'est-ce que c'est que la vie. Puis là, après ça, on a La Chute de Sparte qui me donne envie de me garrocher en bas d'un rocher. Comme assez solidement. Là, on va faire le tour derrière. Moi, je donne ma note 4 sur 10 parce qu'il y a quand même des belles scènes, il y a 2-3 belles métaphores. Mais le twist, selon moi, change beaucoup trop l'orientation du film. Sans vraiment.
Moi, je trouve que ça sauve le film, là, vraiment. Là. Sinon, ça n'aurait pas été écoutable.
Ah non, mais moi, je trouve au contraire que il y a comme pas de préparation à ça, il n'y a pas de setup pour ça. Donc, tout ce qu'on a, c'est une espèce de l'expression anglophone, c'est un bait and switch. Je pense qu'on s'enlignait dans une direction, s'enlignait dans une direction. Whoop! Autre direction, soudainement. Puis, j'ai pas de plaisir à regarder des choses comme ça. J'aurais aimé mieux soit qu'on nous laisse deviner un peu que ça s'en venait, soit que, ou au moins qu'on reste dans les mêmes thèmes. Là, on s'en va complètement ailleurs. Puis, on perd, tu sais, on perd justement l'espèce de littéralité du début du film, qui au moins avait la décence d'être original. Fait que bref, 14-10, je le recommande à personne, aux fans de Biz, puis à Biz. En fait, j'ai sorti de là en me disant que c'était vraiment la projection la plus fidèle de ce que Biz s'imagine être son secondaire.
En tout cas, c'est pas lui qui a réalisé le film non plus.
Non, mais c'est lui qui a écrit le livre.
Ouais, mais je pense que, en tout cas, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Probablement que le livre est meilleur que le film dans ce cas-ci parce que le livre se passe à l'époque où ça se passait, en tout cas.
Je n'irai pas lire le livre.
Bon, en tout cas, moi, je donne 7 sur 10 parce que malgré qu'on sent le talent de Biz et qu'on sent... On sent quand même le talent de Biz. Personnellement, je déteste pas Biz comme toi dans le film. La réalisation, à mon avis, n'est pas du tout à la hauteur du récit. Et aussi, j'aime pas vraiment le rap et j'ai de la misère à imaginer un ado qui écoute du rap en lisant Gaston Miron, même si ça doit exister. Donc,
Jim, je vais t'arrêter. Je suis un homme de 27 ans qui écoute du rap en lisant. Je lis pas Gaston Miron, je vais admettre que c'est Charles Baudelaire qui a occupé mes nuits récentes.
Ben vois-tu? Je me sens pas bien, là.
Mélina, ta note.
Moi, je vais y aller avec un 7 aussi. Je crois que la fin du film vient sauver le film. Le deux tiers du film, je comprenais pas ce que je faisais là, ni où le film s'en allait. Donc, il perd des points, selon moi, à ce niveau-là. Il perd des points aussi, comme je l'ai dit, au niveau de certaines interprétations des acteurs qui enlevaient, selon moi, une certaine crédibilité au film. Mais pour ce que j'ai vécu en sortant de ce film-là, c'est là qu'il va chercher les points pour arriver au 7 parce que pour moi, j'ai trouvé très touchante la fin du film. Ouais. J'ai trouvé très touchante la fin du film, mais c'est ça, il faut s'attacher pour tenir sur place pour les deux premiers deux tiers du film parce qu'on sait pas où ça s'en va.
Puis on a envie de s'en aller.
C'est ça, exactement.
Excellent, merci beaucoup à vous deux. C'était donc la fin de la critique du film La Chute de Sparte. Sur ces belles paroles, je pense qu'on va devoir se quitter et aller se désinfecter la bouche.
Mais en fait, Louis, on oublie un petit truc. La note de Mélina sur Star Wars Solo?
Moi, j'y donnerai un 7.
Ah, intéressant.
Je l'ai vu, en fait, je l'ai vu à Montréal en AVX.
Tu l'as vu en français, toi?
En français,
voilà.
C'est pour ça que t'as une moins bonne note que Louis.
Probablement.
Non, c'est la même note.
T'avais pas donné 7.5?
Ah, peut-être. Je m'en rappelle plus, déjà.
En tout cas.
Mais très intéressant, à certaines occasions, je voyais les mimiques faciales de Harrison Ford chez le jeune acteur, mais à certains autres moments, pas du tout.
Eh bien.
Bon.
Comme quoi?
Auditeurs, auditrices, amis, généraux, lieutenants, capitaines, c'est la fin.
Chien.
Je me reconnais de moins en moins dans cette émission-là.
C'est un au revoir. Donc, on vous souhaite une bonne semaine et un bon cinéma, un bon popcorn. N'oubliez pas, le caramel, ça marche. Le cheddar, ça passe. Le bacon, c'est non.
D'accord.
N'oubliez pas de prendre des serviettes quand vous allez au cinéma et que vous mangez du popcorn.
Absolument. Sinon, c'est pas très bien pour les sièges.
Et se nettoyer les lunettes, c'est de la scrap quand t'as...
Ouais. Oh, ça, c'est vrai.
Bref. Au revoir.
À la semaine prochaine.
Au revoir.